premier comte d'Anjou, dit d'abord le Roux, puis le Plante Genêt, rencontra la licorne le deuxième vendredi de juin de l'année 929. Et toute l'histoire de la France, de l'Angleterre, de l'Irlande et de Jérusalem en fut changée. Et aussi, à cause de l'Irlande, celle des États-Unis, qui reçurent tant d'Irlandais bannis jusqu'à la grande revanche de John Kennedy. Et, par ce dernier et la lointaine licorne, l'histoire de la Lune fut changée aussi. Foulk avait 31 ans. Il était grand, large, fort et souple. À cette époque, la race des hommes du bout de l'Europe était petite. Dans une assemblée, Foulk dépassait chacun de la tête et du cou. Il avait la tête ronde et les longues boucles du lion, les yeux et les cheveux couleur d'ambre. Il ressemblait au héros Vercingétorix, dont le portrait circulait encore au fond des forêts sur des pièces d'or usées par les siècles. Les bûcherons disaient qu'il était le fils de ses fils. Vercingétorix était beau, mais Foulk plus encore. Quand il passait dans le soleil, ses cheveux devenaient rouges comme le feu. Ce fut ainsi que la licorne l'aperçut pour la première fois, alors qu'il traversait une clairière du bois d'Angy sur un grand cheval de même couleur que lui, à l'automne de l'année 928. Il venait de perdre sa femme Hermange, qui lui avait donné deux fils. Il en éprouvait une grande peine qu'il cherchait à cacher, car lui-même en avait honte. Il lui arrivait de quitter brusquement la compagnie, de sauter à cheval et de se mettre à courir les labours ou de s'enfoncer dans les futaies comme un cerf poursuivi par les chiens. Ce jour-là, un vent d'orage le suivait, arrachait les feuilles jaunies et rouillées et les jetait derrière lui en traînes déchirées. Quand il traversa la clairière, brusquement, le soleil perça les nuages et le cheval et le vent s'arrêtèrent. Foulk leva son visage vers le ciel comme pour y trouver un espoir ou une réponse. Le soleil fit flamber ses cheveux, et les feuilles devenues oiseaux d'or et de flammes tournèrent doucement autour de lui. Les arbres tendaient vers le soleil leurs branches dépouillées où s'accrochaient encore des lambeaux de splendeur. Toute la clairière était comme un grand feu de joie et de regret dont le soleil avait allumé la beauté et qui la lui offrait. Au centre de toutes les flammes, le Roux, sur son cheval roux, immobile dans sa blouse de cuir, gardait son visage tourné vers le ciel. Et dans ses yeux brillaient des larmes. La licorne le vit ainsi, dans sa douleur et sa fidélité, et dans la gloire du soleil. Elle était tournée vers lui, debout au pied du seul arbre qui n'eût pas été touché par l'automne, un cèdre qui poussait depuis 200 ans. Sa tête dominait la forêt et les saisons. À l'abri de ses branches basses, dans son amitié, la licorne rayonnait de blancheur pure. Sa robe blanche, sans mélange, ne recevait ni l'ombre, ni les reflets. Quand Foulk se remit en mouvement, il passa près d'elle sans la voir. Il vit sous le cèdre un grand buisson d'aubépine couvert de fleurs et n'y prêta aucune attention. Il savait pourtant que rien ne pousse sous le cèdre et que l'épine fleurit en mai. C'est ainsi que les hommes passent près de la licorne sans la reconnaître, même si des signes évidents la leur désignent. Ils marchent enfermés dans leurs soucis futiles, comme dans une tour sans fenêtre. Ils ne voient rien autour d'eux ni en eux. La licorne trouva qu'il était superbe et pur. Elle fut percée jusqu'au cœur par l'image de son visage tourné vers la lumière. C'était pour une telle rencontre qu'elle vivait depuis si longtemps. Mais il fallait que le Roux vînt de nouveau vers elle et qu'il n'eût pas changé. La famille et les alliés de Foulk le pressèrent de se remarier. Il résista pendant des mois, puis se laissa persuader d'épouser la fille d'un baron qui lui apportait en dot de quoi arrondir son comté du côté du Maine. Elle avait 12 ans et elle louchait de l'œil gauche, que sa mère lui dissimulait avec une mèche. Foulk n'en savait rien, il ne l'avait jamais vue. La cérémonie fut fixée au deuxième samedi de juin. La fiancée, accompagnée de ses parents et de quelques valets, arriva le vendredi après-midi au château du comte. Mais celui-ci n'était pas là pour l'accueillir. Une fois de plus, il était parti à travers ses terres, essayant au bout d'un galop interminable de rejoindre celle qui ne pouvait plus être retrouvée. La lune en son entier se leva alors que le soleil venait de se coucher, et les deux lumières mêlèrent l'or et l'argent au-dessus des champs et des bois. Foulk se retrouva dans la clairière qu'il n'avait plus traversée depuis l'automne. Son cheval, de nouveau, s'arrêta. Foulk le sentit trembler entre ses cuisses. Il sut que ce n'était pas de fatigue. Il regarda devant lui et cette fois vit la licorne. Elle était debout sous le cèdre et le regardait, brillante de toute la blancheur de la lune. Sa longue corne désignait le ciel par-dessus les arbres et ses yeux bleus regardaient Foulk comme les yeux d'une femme, d'une biche et d'un enfant. Les oiseaux qui chantaient leur bonheur du soir se turent par curiosité et se mirent à écouter. Dans le silence, Foulk entendit le cœur de la licorne qui battait avec un bruit de soie. Il pressa doucement son cheval qui fit un pas en avant. Sa peine avait d'un seul coup disparu, non par infidélité, mais au contraire par certitude qu'il n'y avait plus de séparation et que la mort n'existait pas. Maintenant, il le savait. Quand la licorne bougea, les feuilles des arbres devinrent blanches et le ciel noir. Un nuage passa devant la lune. Au fond du bois, une renarde poussa un long cri d'inquiétude. La blancheur allait s'éteindre. La liberté allait être enchaînée. La licorne traversa la clairière d'un bond et s'enfonça au galop dans la forêt qui s'ouvrit devant elle. Le cheval et l'homme roux s'élancèrent à sa poursuite. La licorne fuyait maintenant devant ce qu'elle avait voulu. Elle essayait de rendre impossible l'inévitable. Entre l'espoir et le regret, son galop déchirait en deux sa vie, comme une étoffe. Cette nuit serait sa dernière nuit dans le monde libre. Elle ne voulait pas en perdre un instant. À son passage, tout ce qui était blanc dans la forêt s'illuminait. Les fleurs minuscules dans la mousse, les duvets des oiseaux neufs et les colombes endormies. Au lever du jour, elle parvint à la lisière de la forêt. Au-delà se trouvait une courte prairie qu'elle traversa au pas, sachant que le moment était venu. Tout autour de la prairie, face à la forêt, se dressait une énorme muraille de genêts bouillonnante de fleurs. Le soleil surgit et en fit éclater la gloire. La licorne s'arrêta et se retourna. Le roux, sur son cheval, immobile, la regardait. Le soleil flambait à travers ses cheveux. Il vit les yeux bleus de la licorne pâlir et tout son corps devenir clair comme le croissant de lune qu'on devine au milieu des jours d'été dans le ciel. Puis elle s'effaça entièrement. Et Foulk ne vit plus devant lui que la montagne d'or des genêts. À côté de lui, à le toucher, se tenait sur un cheval couleur de miel, une fille de même couleur. Ses cheveux lisses tombaient jusqu'à sa taille sur sa robe de lin. Ses yeux étaient bleus pailletés de roux. Elle lui souriait. Il la conduisit à son château qui n'était pas loin, droit à la chapelle où attendait l'archevêque, et l'épousa. La fiancée de 12 ans rentra chez elle avec ses parents et des cadeaux. Elle était très contente. Son père l'était moins, mais il n'avait pas assez d'hommes d'armes pour se permettre d'être vraiment mécontent. Foulk avait trouvé ce jour-là en cette femme si différente, non seulement la femme qu'il avait perdue, et toutes celles qu'il n'aurait pu perdre, mais aussi la réponse à des questions qu'il ne s'était jamais posées et qui maintenant lui emplissaient la tête comme le grand bruit de la mer maintenu dans ses rivages. 7 ans jour pour jour après leur mariage, il fit célébrer dans la chapelle du château une messe de gratitude avec des chanteurs venus de Rome et tout un clergé superbe en robe rouge, rose, pourpre, blanche et l'archevêque doré, fil à fil. Tous les gens du château et quelques grands voisins s'entassaient dans la petite nef ronde comme la moitié d'une pomme qu'éclairaient d'étroites fenêtres percées sur tout le pourtour de sa coupole. Des cierges accrochés partout palpitaient de leurs 1000 flammes et répandaient un parfum d'abeilles. Les deux époux écoutèrent la messe à genoux sur un tapis de martre, avec le sourire du bonheur tranquille. Lui était vêtu de renard et de cuir roux, elle de soie blonde venue du bout du monde, ses cheveux relevés en une couronne de nattes surmontée d'un chapeau mince et pointu, en dentelle de lin, raidi au fer, un peu, très peu, incliné vers l'avant. Quand la messe s'acheva, Foulk se releva et tendit une main à son épouse pour qu'elle se levât à son tour. Elle s'y appuya du bout des doigts, mais quand elle fut debout, elle continua de s'élever, quittant le sol de ses pieds, lâchant son époux et montant droit au-dessus de l'assistance, tandis que l'odeur sauvage de la forêt mouillée emplissait tout à coup la chapelle.